pour ce temps de prédication. Alors, nous allons lire trois textes et je vous invite auparavant à nous remettre à Dieu pour cette écoute. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi encore une fois pour que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole et pour que elle fasse son chemin justement dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à lire un premier texte dans Nombre 14, les versets 1 à 4. Il s'agit du peuple d'Israël dans le désert, qui sont aux portes du pays de Canaan pour la première fois. Mais les mauvaises nouvelles de 10 explorateurs sur 12 font que le peuple est effrayé. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef et retournons en Égypte. Un deuxième texte dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le troisième texte sur lequel portera la prédication se trouve en 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 12. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Les 12 premiers versets. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, qu'on traduit aussi par immoralité sexuelle, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Alors, en 51 après Jésus-Christ, Corinthe est une ville du sud de la Grèce située sur un isthme, une étroite bande de terre entre la mer Ionienne à l'ouest et la mer Égée à l'est. C'est une ville donc doublement portuaire qui a une population de 700 000 habitants, pense-t-on. Et elle déborde d'activités et elle déborde aussi de temples d'idoles. Dans ces temples, les prêtresses sont aussi des prostituées et la viande des animaux qui y sont sacrifiés est vendue. Difficile dans ce contexte de développer une communauté chrétienne. Et pourtant, c'est bien ce qui va se produire avec, au départ, la constitution d'une petite équipe de 5 personnes. Peut-être qu'elle était plus nombreuse, mais il y a ces 5 personnes qui sont bien identifiées en Acte 18. Il y a d'abord Paul, qui arrive d'Athènes en cette année 51. Il sera bientôt rejoint par Timothée, son fils spirituel, et Silas, son courageux compagnon de mission, celui avec qui il chantait dans la prison de la ville de Philippe, bien qu'ils aient été chargés de coups juste avant. Peut-être échaudé par la confrontation stérile avec les philosophes d'Athènes, Paul prêchera à Corinthe un évangile sans fioriture, Christ crucifié, mais avec l'assistance de la puissance de Dieu pour convaincre les cœurs. Il y a ensuite un couple de Juifs, Priscille et Aquilas, qui ont été chassés de Rome par un décret de l'empereur Claude en 49, à l'encontre des Juifs, et qui se sont donc installés à Corinthe. Ils rencontrent Paul, et le courant va tout de suite passer entre eux. Ils sont fabricants de tentes, tout comme Paul, et ils s'associent dans cet artisanat. Aquilas et Priscille ne sont pas connus comme de grands prédicateurs. Ce ne sont ni Paul, ni Apollos, ni Pierre, mais ils forment un couple fiable, un couple sur lequel l'apôtre Paul pourra toujours compter. Ils sont persévérants, ils sont clairs dans leur compréhension de l'Évangile, et ils sont courageux. Partout où ils passeront, ils laisseront un bon souvenir. L'apôtre Paul dira ainsi en Romains 16, au verset 5, « Ce n'est pas seulement moi qui leur rends grâce, mais ce sont toutes les églises des païens. » 5 hommes et femmes, donc, sous le leadership de Paul, déterminés, zélés, unis, complémentaires, qui vont poser les bases de cette église de Corinthe avec le secours puissant du Seigneur. Le Seigneur qui d'ailleurs se révélera en vision à Paul pour lui dire « Ne crains point, parle, ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et Paul va obtempérer, enseignant de manière intensive la parole de Dieu aux Corinthiens pendant 1 an et demi. Sur ces bases, l'Église de Corinthe va se constituer et croître beaucoup. Alors, ce ne sera pas une Église d'intellectuels, ni de riches, ni de gens haut placés, mais ce sera une Église de gens ordinaires, juifs et grecs mélangés, instruits par une prédication simple de l'Évangile. Et ce sera aussi une Église charismatique, dans laquelle les dons de l'Esprit seront largement répandus. En somme, une église jeune, enthousiasmante, mais certainement pas de tout repos. Après ces 18 mois de travail, l'équipe missionnaire va prendre congé et poursuivre son voyage outre-mer. Elle va aller en Asie, ce qui est l'actuelle Turquie. Et l'église va garder le lien avec Paul par des échanges de lettres. Et c'est en réponse à une des lettres des Corinthiens qui devait porter probablement sur des questions pratiques telles que le mariage, telles que la consommation de viande sacrifiée aux idoles, que l'apôtre va rédiger la première épître aux Corinthiens. Il s'agit d'une réponse très longue puisqu'elle comporte 16 chapitres qui montrent qu'en fait, beaucoup de choses ne vont pas dans l'église de Corinthe. En fait, la lettre de 1 Corinthiens montre qu'il y a au sein de l'Assemblée des pratiques idolâtres, de l'immoralité sexuelle, des désordres dans plusieurs domaines et une contestation de l'autorité de l'apôtre. Alors Paul va déployer tout son talent de conviction pour redresser tout ce qu'il voit dévié dans cette communauté. Et en particulier, il va au chapitre 10 faire un parallèle entre les Corinthiens et le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Et il montre que ce parallèle est justifié car l'Église de Corinthe, comme le peuple d'Israël, est le peuple de Dieu. Il n'y a pas de remise en cause de ce statut. En effet, les chrétiens de Corinthe, par leur baptême, ont été plongés et sont ressortis de l'eau, comme le peuple d'Israël s'est enfoncé dans la mer Rouge et en est ressorti. Les chrétiens de Corinthe, par la Sainte Seine, sont aussi entrés en communion avec le corps et le sang de Jésus, comme le peuple d'Israël a été nourri d'une nourriture divine et étanché par l'eau d'un rocher providentiel. Les exemples que Paul va donc donner ensuite sont pertinents. Mais dans ces exemples que nous allons parcourir, on va voir que le peuple n'est point agréable à Dieu. Il n'est point agréable à Dieu et cela a des conséquences lourdes. À chaque fois, il y a des milliers de morts. Ces exemples attirent l'attention sur quatre dangers. Premièrement, le danger de l'idolâtrie et de l'occultisme auquel il est lié. Deuxièmement, le danger de l'immoralité sexuelle. Troisièmement, le danger de la colère injuste. Et quatrièmement, le danger, enfin, de l'amertume qui se traduit par des murmures. Reprenons ces exemples l'un après l'autre. Le risque de l'idolâtrie. Le verset 7 dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Il s'agit de l'épisode du veau d'or que l'on peut lire en Exode 19 jusqu'au chapitre 34 et plus spécialement au chapitre 32. Le peuple récemment sorti d'Égypte arrive au mont Horeb dans le Sinaï. Alors, par les 10 plaies d'Égypte, Dieu a déjà vaincu la résistance de Pharaon qui a laissé partir le peuple. Par le miracle de la traversée de la mer Rouge, le peuple a échappé aussi et s'est débarrassé définitivement de l'armée de Pharaon. Le peuple est donc enfin libre après 400 ans d'esclavage. Arrivé au mont Horeb, Moïse est appelé vers le sommet pour recevoir la loi, dont les 10 commandements, et prendre connaissance de l'organisation que Dieu a prévue pour vivre au milieu de son peuple, et il va y rester 40 jours. Ces 40 jours, c'est trop pour le peuple qui en bas s'impatiente et qui dit à Aaron, frère de Moïse, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et Aaron obéit en fabriquant un veau en or. Et le peuple dit alors, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Cet exemple est extrêmement fort, parce qu'on voit que le peuple va attribuer à cet objet d'or, qu'Aaron vient juste de fabriquer, les prodiges que l'Éternel a accomplis en sa faveur. Et il va le faire alors que Moïse est encore en conversation avec l'Éternel sur la magnifique nouvelle organisation qu'il a prévue pour son peuple libéré. L'idolâtrie est un affront terrible à Dieu. Mettre une idole à la place, ou même simplement à côté de Dieu, est une insulte. Et c'est aussi bien souvent, comme le montre la suite de la lettre, une transaction avec les démons. Les conséquences pratiques pour les Corinthiens est qu'ils ne peuvent pas être chrétiens tout en recherchant une bénédiction supplémentaire ou complémentaire pour leur vie dans la participation à des sacrifices aux idoles. Et les conséquences pour nous, chrétiens, c'est que nous ne pouvons pas mener une vie qui plaît à Dieu tout en nous remettant au loto pour la fortune, au guérisseur pour la santé, au voyant et à l'horoscope pour notre programme. Dieu n'est pas aveugle et désapprouve complètement. Dans le deuxième exemple, il y a le risque de l'immoralité sexuelle. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 8. L'événement qui est évoqué est relaté en nombre 25. Israël se trouve à Sittim, aux portes de Canaan, à 10 kilomètres seulement de Jéricho, avec le Jourdain seulement qui les sépare. Ils s'apprêtent à prendre possession du beau pays promis par Dieu. Mais c'est à ce moment-là que les hommes du peuple sont approchés par les filles de Moab et de Madian. Ils couchent ensemble, puis ils assistent à des sacrifices, et les hommes d'Israël finissent par se prosterner devant Baal Péor, le faux dieu des Madianites. Alors Dieu va envoyer une plaie qui va décimer 23 000 hommes en une journée, 24 000 en tout. Quelle surprise! Alors que le peuple s'apprête à faire un pas en avant décisif dans le pays promis, le voici qui fait un grand pas en arrière dans l'immoralité. Et on voit là clairement le lien entre l'acte sexuel et l'acte spirituel. Les Israélites, membres d'une nation sainte, en viennent à se prosterner devant Baal Péor. L'un entraîne l'autre insidieusement. Et c'est ce qu'explique Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 de la lettre, les versets 13 à 18. La relation à Christ est abîmée par la relation avec le ou la partenaire injuste, et le corps est affecté. Si bien que Paul, en conclusion du passage, s'exclame « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Alors, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'était pas si simple pour les Corinthiens, puisque les temples des idoles, les maisons de passe et les boucheries étaient mélangés. Ce n'était pas si simple au 1er siècle, mais cela ne l'est pas non plus au 21e siècle, car notre société a enlevé les garde-fous et il n'est pas simple de marcher à contre-courant. Mais retenons cet enseignement, fuyons l'immoralité sexuelle, au risque tout simplement de n'être point agréable à Dieu et de nous faire du mal. Le troisième exemple nous parle du risque de la colère. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Dans ce récit de Nombre 21, versets 4 à 9, sur lequel je ne m'étendrai pas par manque de temps, on voit le peuple qui se livre à un mouvement d'humeur qui va s'avérer dévastateur. En deux phrases, les contestataires mettent en cause la libération d'Égypte, la bonté de Dieu qui a nourri son peuple avec la manne pendant 40 ans et la sagesse de Dieu avec laquelle il les a guidés pendant toute cette période. Sans repentance, cette colère injustifiée détruit la communion avec Dieu et laisse des fruits amers. Et enfin, il y a le quatrième exemple qui est le danger de l'amertume que j'associe au murmure. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. L'événement auquel se réfère ce verset est celui qui nous est relaté en Nombre 4, les versets 2 à 29. Le peuple vient d'être libéré du pays d'Égypte et de l'armée de Pharaon et se présente pour la première fois aux portes de Canaan, le pays qui lui a été promis. Moïse envoie 12 espions en reconnaissance de ce pays à conquérir. Les 12 partent, font un assez grand périple en Canaan, ils remontent jusqu'à la ville d'Hébron et reviennent. Et le discours de 10 d'entre eux est tout à fait cohérent. Ce pays est formidable. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais les hommes qui y habitent sont des géants et ils sont forcément plus forts que nous. Nous ne pouvons donc pas envahir ce pays. Et là, le peuple entre dans une grande frayeur. Ce n'est pas la colère, c'est la dépression. Toute l'assemblée, nous est-il dit, éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Et ensuite s'ensuivent les murmures. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Que vont devenir nos femmes? Que vont devenir nos enfants? Etc. Ces murmures font moins d'éclat que la colère, mais tout autant de ravages. La confiance en Dieu a complètement disparu. Les discours encourageants de Josué et de Caleb sont complètement éclipsés. Le peuple est prostré dans la défaite. Et c'est une attitude qui offense gravement Dieu et le conduit à une punition exceptionnelle. Aucun des hommes de cette génération, excepté Josué et Caleb, n'entrera dans le pays promis. En somme, Dieu va prendre au mot cette génération qui ne lui a pas fait confiance. Qu'en est-il des Corinthiens? Eh bien, ils sont eux aussi à la croisée des chemins. Deux évangiles s'offrent à eux. Le premier, c'est celui que Paul prêche et pour lequel il est constamment exposé à la mort. Et qui dit en particulier ceci, « Restez attachés au simple message de Jésus-Christ mort sur une croix pour nos péchés. Fuyez l'immoralité, supportez l'injustice, soyez modestes, pensez aux autres, soyez patients, espérez à une complète félicité, pas forcément maintenant, mais à la résurrection des morts. » Et puis, il y a l'évangile de certains frères, l'évangile que certains frères préféreraient entendre. Un évangile qui ménage la sagesse des Grecs. Pas de résurrection des morts, ça passe pas, ça passerait pas. Pas de susceptibilité qui ménage aussi la susceptibilité des Juifs. Pas de Messie crucifié. Un évangile en phase avec son siècle. Sur la spiritualité, sur la moralité, sur la place des femmes par rapport aux hommes. Un évangile qui ne se sacrifie pas pour les autres, un évangile dont on adapte la théologie en suivant le leader qui plaît le plus. Le premier évangile fait peur. Il challenge notre confiance en Dieu, car sans lui, nous sommes incapables de le vivre. Le deuxième est plus plaisant, car il est plus conciliant, il semble plus raisonnable. Mais si on reprend le parallèle avec Israël, il mène à une période désert et il ferme l'entrée de la terre promise à toute une génération. Alors en conclusion, la lettre de 1 Corinthiens nous révèle une Église étonnamment moderne. C'est une joie de constater que depuis 20 siècles, la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée et transforme des vies et suscite des communautés vivantes. C'est une joie également de voir qu'aujourd'hui comme hier, des hommes et des femmes répondent à l'appel de Dieu pour créer et développer de nouvelles assemblées. La lettre de 1 Corinthiens montre que le travail de Paul, de Priscille, d'Aquilas, de Timothée et de Silas a été fructueux. Mais cette lettre va aussi montrer que l'assemblée de Corinthe est très imparfaite et suscite une inquiétude légitime de la part de l'apôtre Paul. Les exemples des erreurs du peuple d'Israël dans le désert leur sont donnés pour leur faire prendre conscience des risques auxquels leur comportement expose la communauté. Et pour les mêmes raisons, ils nous interpellent aussi. Retenons donc ceci. Premièrement, que nous soyons des chrétiens baptisés ne nous empêche pas d'avoir des comportements dans un domaine ou dans un autre qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne lui sont pas agréables, même s'il continue à nous aimer de son amour de Père. Et deuxièmement, si c'est le cas, ces comportements manifestes ou cachés ont un impact sur les autres. Ils entraînent, pour une part, la confusion et le désordre dans l'Église. Ils entraînent aussi l'atténuation de son témoignage au dehors. Alors, il ne s'agit pas de s'auto-flageller ou de se chercher des poux si nous n'en avons pas dans la tête, mais en ce premier jour de l'année 2023, ce jour traditionnel pour faire des vœux. Pourquoi n'en ferions-nous pas en disant simplement au Seigneur, « Seigneur, j'ai envie de t'être agréable. Montre-moi ce qui te déplaît dans ma vie et donne-moi la grâce d'y renoncer. » Soyons assurés que si telle est notre prière, elle sera exaucée et nous en verrons les fruits. Amen.